Bonsoir à tous et bienvenue à cette deuxième étude biblique d'une série de quatre sur le thème difficile du divorce et du remariage. Cette série d'études est présentée à trois voix par les pasteurs de l'église La Bonne Nouvelle de Mulhouse. Mathieu Audap a présenté la première étude la semaine passée en lisant des textes parlant du divorce de l'Ancien Testament. Je présente ce soir la deuxième étude en lisant des textes des Évangiles. Et Jean-Marc Bellefleur présentera la semaine prochaine la troisième étude en lisant des textes des lettres de l'apôtre Paul. Nous conclurons ensemble, les trois pasteurs, dans deux semaines, en réfléchissant à une synthèse possible, et plus particulièrement pendant cette quatrième étude, aux enseignements que nous pouvons comprendre quant au remariage, après toutes ces lectures de textes concernant particulièrement le divorce. Avant de lire donc ce soir quelques textes des Évangiles, je rappelle rapidement quelques points soulignés par Mathieu Audap en parcourant l'Ancien Testament la semaine dernière pour nous remettre sur les rails de cette étude et bénéficier de quelques repères importants trouvés dans les textes de l'Ancien Testament. Premièrement, Genèse 2:28 est l'institution divine du mariage, nous a rappelé que dès les tout premiers jours de l'histoire de l'humanité, Dieu a voulu que l'homme s'attache à sa femme comme contexte du mariage. Deuxièmement, nous avons remarqué que plusieurs textes donnent un cadre aux situations de divorce en précisant des cas d'interdiction. Et Mathieu Audap nous a proposé que cela évoque assez clairement qu'il existe des cas autres, c'est-à-dire des cas non interdits. Pour le dire positivement, des cas permis. Et cela me semble tout à fait justifié, je le rappelle. Troisièmement, en remarquant les enseignements qui sont donnés concernant les conséquences juridiques sur l'ex-mariage, nous avons pu discerner ce qui dit la fin des liens qui unissaient les époux avec un divorce prononcé. Pouvant répondre ainsi avec la définition suivante, le divorce étant une rupture de l'alliance du mariage. Quatrièmement, et dernier point de rappel rapide, pour dire que l'analyse fouillée de Deutéronome 24 nous a permis d'éviter le piège d'une lecture non globale du paragraphe, lecture du premier verset isolé qui ferait penser que le divorce est là conseillé, alors qu'il n'est que constaté. Et dans ce texte de Deutéronome 24, le seul point législatif est bien à la fin du paragraphe, au verset 4, disant que le premier mari ne peut pas reprendre sa femme après son mariage, avec le mariage de cette femme avec un deuxième mari. Donc il s'agit bien d'une interdiction et non pas d'un conseil de divorce au verset 1. Voilà ces quatre points que je pensais utile de rappeler avant de lire quatre textes ce soir dans les Évangiles, dans Matthieu 5, Matthieu 19, Marc 10 et Luc 16. Premier texte dans Matthieu 5. Nous sommes donc dans le grand discours de Jésus, appelé souvent le Sermon sur la montagne, et au milieu de plusieurs autres enseignements qui se suivent sans toujours avoir un lien entre eux, mais en étant des thèmes différents abordés par le Seigneur, nous lisons dans Matthieu 5, les versets 31 à 32, un court texte parlant du divorce. Matthieu 5, 31 et 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet adultère. Voilà le premier texte, Matthieu 5, 31-32. Quelques remarques, tout d'abord sur l'expression « il a été dit », qui nous renvoie à Deutéronome 24, que nous avons lu la semaine dernière, que je viens de rappeler, cité étonnamment avec seulement la première partie du paragraphe, ce que nous avons voulu éviter avec raison la semaine dernière. Et on peut donc penser que quand Jésus dit « il a été dit », il renvoie plutôt à l'interprétation des rabbins et à certaines orientations dénoncées, comme Jésus l'a souvent fait, en dénonçant les enseignements en cours et pas simplement en parlant du texte biblique lui-même. En effet, certaines lectures rabbiniques tendaient à largement banaliser et simplifier le chemin du divorce. Les rabbins avaient pris des libertés avec l'enseignement de l'Écriture, et pour eux, le rôle de Deutéronome 24 était là pour faciliter la partie administrative en cas de divorce, et ils avaient conclu, à tort, que les hommes pouvaient divorcer de leur épouse si quelque chose leur déplaisait, pourvu qu'ils prennent le temps de bien rédiger la lettre de divorce. Cependant, on va le voir plusieurs fois ce soir, Moïse avait offert cette possibilité, en étant inspiré par Dieu, afin de protéger la femme divorcée et pas du tout pour justifier, légaliser, encore moins encourager le divorce sous n'importe quel prétexte. Je dis bien protéger. Effectivement, ce texte de Deutéronome 24 limite ce qu'on pourrait appeler, avec un vocabulaire bien triste, des allers-retours. En interdisant à un homme de reprendre une femme qu'il a répudiée dans le passé, et c'est l'interdiction très claire du verset 4 de Deutéronome 24, protégeant la femme ainsi d'être un objet rejeté, puis repris et rejeté. L'homme qui répudie sa femme doit comprendre qu'il ne pourra plus la reprendre comme épouse, et qu'il faut donc réfléchir à deux fois, en fait beaucoup plus que deux fois, avant de décider à la légère de la renvoyer. Voilà pour le « il a été dit ». Au verset 32, Jésus dit « sauf pour cause d'infidélité ». Et remarquons bien cette clause d'exception que Jésus formule ici, qui fait écho à Deutéronome 24, mais pas seulement, puisqu'il ne prend pas le terme précis de Deutéronome 24, qui parlait de choses inconvenantes, le « ervat dabar » en hébreu que Matthieu Odap a commenté la semaine dernière. Donc il s'agissait de choses inconvenantes, alors qu'ici Jésus dans Matthieu 5, 32 parle de porneia, et on reconnaît ici la famille de mots autour de pornographie et tout ce qui tourne autour de la déviance sexuelle, des déviances sexuelles. Et ainsi Jésus évite la fausse compréhension qui banalisait la fameuse expression « chose inconvenante » en petites choses de la vie courante. Jésus évoque des situations graves liées à l'infidélité et à l'inconduite sexuelle. Ce qui semble bien dire que dans le cas évoqué, cas d'infidélité, la répudiation ou le divorce n'est pas dénoncé, l'adultère oui bien sûr, mais la situation d'infidélité rend le divorce non dénonçable. Et nous verrons plus tard le vocabulaire de Jésus en Matthieu 19. Le divorce, sans être une bonne chose prévue dès le début, n'en est pas moins permis ou toléré dans le cas de l'exception. Verset 32. Celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Si on n'avait que cette ligne, on pourrait ne pas comprendre que la clause d'exception existe. Mais puisqu'il y a des cas où le divorce va être permis, il semble juste de comprendre la fin de la phrase que je viens de lire, « Celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère », dans le contexte de la même exception qui vient d'être énoncée juste avant. Il semble donc que nous sommes devant une expression avec une formule raccourcie, comme on va en trouver plusieurs fois, la formule complète pouvant être « Celui qui épouse une femme répudié hors contexte d'adultère, la clause d'exception, commet un adultère. » Sinon, on ne voit pas pourquoi Jésus a évoqué cette exception au début de la phrase. En résumé, devant ce premier texte court, simplement deux versets, voilà ce qui me semble pouvoir être dit. Premièrement, globalement, avec un schéma répété maintes fois dans le Sermon sur la montagne, Jésus dit « Attention à ce que vous avez en tête ». Écoutez mon éclairage, mes compléments sur les textes que vous connaissez ou que vous croyez connaître. C'est l'interprétation très forte de l'expression « il a été dit, mais moi je vous dis ». Deuxièmement, plus proche, plus précisément concernant notre thème, ne banalisez pas le divorce. Il a été dit, plus ou moins, en tout cas par les rabbins, on écrit une lettre et c'est bon, mais moi je vous dis que non. Le divorce met la personne répudiée en situation très compliquée. Troisièmement, il y a néanmoins une clause d'exception. Et ce n'est pas pour ce cas-là que je reformule cette alerte en dénonçant les divorces trop rapides. Premièrement donc, attention à ce que vous croyez connaître, écoutez mon éclairage, dit Jésus. Deuxièmement, ne banalisez pas le divorce. Troisièmement, il y a une clause d'exception. Deuxième texte, le plus long des textes que nous lirons ce soir, Matthieu 19, versets 3 à 9, en fait je lirai même 3 à 12. Un texte plus long, en réponse à une question précise des hommes religieux, voulant piéger Jésus avec un thème épineux. Matthieu 19, à partir du verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Jésus répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ? Et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair ? Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier ? Il leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité et en épouse une autre, commet un adultère. » Ses disciples lui dirent, « Si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère, il y en a qui le sont devenus par la main des hommes, et il y en a qui se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. » Au verset 3, la question piège des pharisiens utilise l'expression « pour n'importe quel motif ». Et là, on est loin de la citation fidèle du Deutéronome 24. Et cela met le doigt sur l'interprétation délicate de ce texte et sur ce qu'en avaient fait les écoles rabbiniques de l'époque. J'en cite deux principales que vous retrouverez dans beaucoup de commentaires. Il y avait l'école du rabbin Shammai et l'école du rabbin Hillel, qui étaient tous deux quasiment contemporains de Jésus-Christ. Pour ceux qui suivaient Shammai, il prônait une interprétation rigide de la loi et autorisait un homme à divorcer de sa femme uniquement lorsqu'elle s'était rendue coupable d'adultère. Donc c'est la lecture la plus stricte du texte avec le rabbin Shammai. Pour ceux qui suivaient l'autre rabbin bien connu, Hillel, ils adoptaient une approche beaucoup plus large et dite pragmatique, permettait à un homme de renvoyer sa femme sans raison fondée, pour un motif quelconque. Et, d'après certaines lectures que l'on peut faire, il semble qu'ils incluaient, y compris si elle ne cuisinait pas bien. En comprenant le inconvenant de Deutéronome 24, au sens extrêmement large, et évidemment pas dans la pensée de Moïse, qui revenait à dire pour l'école de Hillel, si elle ne te plaît plus vraiment, eh bien tu peux la renvoyer. Voilà le contexte du piège tendu à Jésus quand ses chefs religieux lui disent « Que penses-tu du n'importe quel motif ?» Réponse de Jésus, versets 4 à 6, il revient à Genèse 2. C'est intéressant de voir que Jésus ne commence pas par dénoncer, comme il aurait pu le faire facilement, la lecture trop banalisante du divorce. Mais qu'il va pour cela prendre le temps de revenir en arrière en parlant du mariage. Il invite ainsi le piège de seulement commenter les interprétations de Deutéronome 24 pour enseigner les fondements du mariage, selon Genèse 2 en particulier. C'est ce que nous avons d'ailleurs fait la semaine dernière et ce que Matthieu Dapp nous a proposé, revenir aux fondements du mariage avant de lire les textes concernant le divorce. Jésus rappelle donc tout simplement et avec force que la volonté première du mariage voulu par Dieu est qu'il dure et qu'il soit pour la vie. Versets 4 à 6. Ensuite, et seulement ensuite, dans les versets 7 à 8, Jésus va évoquer les cas d'exception et le divorce permis. Après avoir réaffirmé clairement la visée première pour un mariage, Jésus va évoquer ce qu'on appelle la clause d'exception. Une seule raison est présentée comme exception et non pas comme une option. Avec le début de la réponse rappelant les bases du mariage, Jésus est très clair sur ce point. Il ne s'agit pas d'une option parmi d'autres, mais bien seulement d'une exception conduisant à une permission, d'une tolérance quand les choses vont mal. Et si Moïse, homme de Dieu, en a parlé, ce n'est pas en banalisant le mariage, mais en prenant en compte la dureté de vos cœurs, dit Jésus. Voici donc la deuxième partie de la réponse de Jésus. Après la première partie, le mariage est fait pour durer, la deuxième partie de la réponse est « Le divorce n'est là que comme tolérance et pas du tout comme option, mais comme tolérance dans certaines situations. » Verset 9, venons-en à ce verset qui évoque la clause d'exception, qui a deux textes parallèles que nous allons retrouver tout à l'heure, dans Marc 10, verset 11 et dans Luc 16, verset 18. Marc 10 et Luc 16 ont des formulations plus courtes qui ne mentionnent pas la clause d'exception. On y reviendra tout à l'heure, mais ils sont bien, bel et bien des textes parallèles. Que dit Jésus ici ? Qu'il y a deux groupes de cas bien différents. Les cas correspondant à ce qu'on appelle donc la clause d'exception, pour cause d'infidélité, et tous les autres cas pour lesquels le divorce n'est pas permis. Et donc, non seulement il ne fait pas partie du plan initial, le mariage est fait pour durer, mais il ne se situe pas à l'intérieur de la permission et de la tolérance que Moïse a évoquée et avec laquelle certaines écoles rabbiniques partaient dans des interprétations bien fautives et bien généralisantes. Verset 10, réaction des disciples, assez époustouflante. Si c'est le cas, si le mariage doit être pour la vie, alors autant ne pas se marier. Honnêteté troublante des disciples, si leurs épouses ont vent de leur réaction, elles ont le droit d'être blessées et troublées. Mais remarquons que Jésus ne va pas les reprendre sur ce que je trouve époustouflant, mais va poursuivre son enseignement en parlant de l'option du célibat et en rappelant que cela n'est pas du tout aussi banal, là encore, que ce que les disciples semblent dire, et que ceci n'est pas donné à tout le monde. Donc là encore, Jésus freine une banalisation de l'enseignement de la part de ceux qui vont trop vite en besogne et qui croient pouvoir conclure. Résumé, premièrement, on ne peut pas parler du divorce sans revenir aux bases du mariage et sans considérer la beauté du projet initial de Dieu qui a institué le mariage. Deuxièmement, il y a bien une clause d'exception que Moïse a donnée de la part de Dieu qui prend en compte la dureté du cœur de l'homme, mais c'est faire fausse route de partir de là pour banaliser le divorce. C'est la réponse claire de Jésus à la lecture relâchée de certains qui prétendent que pour une cause quelconque, pour presque n'importe quoi, on peut divorcer. Troisièmement, par contre, dans le cas inverse, hors clause d'exception, on est hors cadre. Donc, autant il y a une clause d'exception, autant en dehors de cette clause d'exception, on est hors cadre. Quatrièmement, en évoquant la réaction étonnante des disciples, retenons la réponse de Jésus qui se concentre sur la beauté du mariage en ne faisant pas du célibat la voie pour tous plus simple et plus recommandable tellement le mariage peut être compliqué. Mais la réponse de Jésus nous rappelle la beauté du mariage et ne fait du célibat qu'une voie pour certains. Troisième texte, Marc 10, versets 2 à 12, qui est clairement le texte parallèle de celui que nous venons de lire. Mais dont je refais quand même la lecture pour relever deux différences qui me semblent être intéressantes à relever. Marc 10, versets 2 à 12. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Que vous a commandé Moïse ?»« Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire un acte de divorce et de répudier sa femme. » Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit pour vous ce commandement. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux époux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Lorsqu'ils furent à la maison, les disciples le questionnèrent à nouveau sur ce sujet. Il leur dit, « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers la première. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Deux remarques devant ce texte très clairement parallèle à Matthieu 19, mais version un peu plus courte. Marc est plus concis et n'évoque pas l'expression « pour n'importe quelle cause » ou « pour une cause particulière ». Et là, je fais une remarque d'interprétation des textes bibliques. On a donc bien des textes qui utilisent des formules raccourcies, qui pourraient nous mener sur des fausses pistes si on ne prend pas en compte l'ensemble de l'Écriture. Si on n'avait que le texte de Marc et pas celui de Matthieu, on pourrait penser que Jésus a dit ce jour-là, a enseigné, que la tolérance du temps de Moïse n'a plus cours et qu'elle n'est plus à être considérée aujourd'hui. À la seule lecture du verset 9 de Marc 10, qui dit « Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni », on pourrait conclure qu'il n'y a plus de divorce en aucun cas. Ce qui ne correspond pas à l'enseignement de l'ensemble des textes. Et ici, donc, je fais une remarque qui n'est pas tant une remarque sur le sujet du divorce lui-même, mais qui nous sera bien utile encore pour creuser ce thème, mais qui est une remarque plus globale sur l'exigence de l'herméneutique, de l'interprétation des textes et de l'étude approfondie des textes à la lumière de l'ensemble de l'Écriture, pour ne pas partir sur de fausses pistes et de fausses conclusions. Il nous faut donc remarquer que certains textes ont des expressions raccourcies et qu'il est juste de prendre en compte ceux qui évoquent la formulation plus longue. Deuxième remarque devant ce texte parallèle de Marc 10, la fin du texte, versets 11 et 12, vous avez peut-être remarqué en écoutant la lecture qu'on a là une symétrie, et là, pour le coup, on en a plus que dans Matthieu, une symétrie qu'on n'avait pas dans Matthieu. Versets 11 et 12, « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers la première. » Verset 12, la symétrie, « Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » On a donc ici une symétrie inattendue quand on connaît la culture de l'époque. Mais dans les deux cas, on peut faire la même remarque d'interprétation déjà faite. Ce texte, lui seul, pourrait nous faire penser à tort que tout divorce d'un côté ou d'un autre est interdit, n'est pas toléré par Dieu, alors que le texte de l'évangile de Matthieu, plus complet, nous dit clairement qu'il y a quand même deux cas différents. Résumé, pour ce texte de Marc, la remarque importante d'interprétation biblique, rendant obligatoire la prise en compte de tous les textes bibliques parlant d'un même sujet, si l'on veut conclure de façon juste. Deuxième remarque concrète concernant le thème du divorce, sur la symétrie, assez inattendue avec ce qu'on sait de la culture de l'époque, en évoquant le cas où c'est la femme qui répudie son mari. Lisons maintenant le quatrième et dernier texte des évangiles parlant du divorce, dans Luc 16, au verset 18. Il est très court, un seul verset, mais je vais lire un verset avant et deux versets après pour qu'on réalise bien, avec le contexte immédiat, qu'on est dans une succession d'enseignements qui n'ont pas forcément de lien direct, mais qui correspondent à des enseignements que Jésus donne les uns après les autres. Luc 16, verset 18, je commence au verset 17. « Il est plus facile pour le ciel et la terre de passer que pour un seul trait de lettre de la loi de tomber. » verset 18, « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. » Verset 19, « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcère du nom de Lazare était couché à son portail. » J'arrête la lecture, simplement pour nous montrer à quel point le verset 18 est pris dans un ensemble d'enseignements et qu'il est là un verset très court au milieu d'autres enseignements qui ne sont pas liés. L'épisode concernant l'homme riche et Lazare n'est vraiment pas du tout lié à la question de du divorce et du remariage. Quel est l'enseignement de Jésus ici, dans ce texte très court, du verset 18? Eh bien, on retrouve très fortement la dénonciation du divorce qui est décrit dans le cadre de l'adultère et du péché. Et on est très loin de la banalisation du divorce. Deuxièmement, on retrouve la formulation courte. Et en faisant la même remarque que pour le texte de l'évangile de Marc, il est juste de l'interpréter en sachant qu'un texte n'en annule pas un autre et que le devoir de synthèse devant les textes de l'Écriture nous conduit à prendre le texte de l'Évangile de Matthieu comme plus complet que ceux de Marc et de Luc, qui, eux, se contentent d'une formulation courte, ne parlant pas de la clause d'exception, mais se contentant du cas général, hors clause d'exception, pour dénoncer le divorce rapide. Troisièmement, un ajout par rapport aux autres textes, dans ce court verset 18, une symétrie de responsabilité entre celui qui répudie et se remarie et celui qui se marie avec une femme répudiée. Je relis ce verset. « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. » On a donc une symétrie ici qui rappelle la responsabilité de chacun entre celui qui répudie et se remarie ou celui qui se marie avec une femme répudiée par un autre. On trouve ici un enseignement biblique très général et important qui dit que chacun est responsable de ses actes et qu'on ne peut pas se dédouaner en dénonçant les choix des autres. Nos choix doivent être portés avec la responsabilité qu'ils représentent de notre côté. Voilà pour la lecture de ces quatre textes des évangiles. Et j'essaye maintenant une conclusion générale, un essai de synthèse devant ces quatre textes. Et je vous propose sept points de synthèse. Premièrement, avec un schéma répété maintes fois dans le Sermon sur la montagne, Jésus dit « Attention à ce que vous avez en tête ». Écoutez mon éclairage et mes compléments sur les textes que vous connaissez ou croyez connaître. C'est l'interprétation très forte du « il a été dit, mais moi je vous dis ». Première remarque qui déborde notre thème, mais qui me semble très importante à avoir en tête, en particulier pour notre texte. Attention à ce que vous avez en tête, à ce que vous croyez avoir bien compris. Considérez les compléments que je vous donne. Moi, Jésus. Deuxième remarque de conclusion, Jésus nous dit plusieurs fois, revenons aux bases. Ne parlons jamais du divorce sans nous souvenir de la volonté première de Dieu pour le mariage. On ne peut pas parler du divorce sans revenir aux bases du mariage et sans considérer la beauté du projet initial de Dieu qui a institué le mariage et qui l'a voulu pour la vie. Troisièmement, ne banalisez pas le divorce. Il a été dit qu'on écrit une lettre et c'est bon. Eh bien, je vous dis que non. Le divorce met la personne répudiée en situation compliquée. Quatrièmement, il y a néanmoins une clause d'exception. Et ce n'est pas pour ce cas-là, dit Jésus, que je reformule l'alerte en dénonçant les divorces trop rapides. Avec ici une remarque importante d'interprétation biblique, rendant obligatoire la prise en compte de tous les textes bibliques parlant d'un même sujet, puisque dans certains évangiles, la clause d'exception n'est pas citée. Cinquièmement, l'exigence du mariage vu comme institution divine pour la vie n'en fait pas un chemin moins beau et ne fait pas du célibat le chemin préférable pour tous. Non, le mariage reste dans le bon et beau plan de Dieu pour l'humanité. Sixièmement, la symétrie est évoquée, enseignée, un peu inattendue, avec ce conseil de la culture de l'époque, mais elle est bien là, en évoquant le cas où c'est la femme qui répudie son mari. Septièmement, et dernière remarque, la symétrie de responsabilité évoquée aussi entre celui qui répudie et se remarie et celui qui se marie avec une femme répudiée par un autre, nous rappelant que chacun est responsable de ses actes et qu'on ne peut pas jeter la faute sur l'autre et oublier ce qu'elle est notre responsabilité en dénonçant ce que les autres peut-être n'ont pas bien fait. Nos choix doivent être portés avec la responsabilité que nous portons. Voilà pour ce soir. Que Dieu nous aide à continuer à être bien à l'écoute de ces textes, en attendant la lecture des textes trouvés dans les lettres de l'apôtre Paul, puisque, nous l'avons répété ce soir, il nous faut étudier un sujet à la lumière de tous les textes bibliques. Nous ne pouvons donc absolument pas nous arrêter en chemin. Rendez-vous à la semaine prochaine pour lire les textes concernant le divorce dans les lettres de l'apôtre Paul et pour pouvoir, avec l'ensemble de l'Écriture, l'Ancien Testament, les Évangiles et les lettres, et en demandant à Dieu de nous aider, construire la synthèse la plus juste possible à la lumière de tous les textes bibliques. Bonne fin de soirée à chacun. Que le Seigneur nous accompagne et nous aide à persévérer à l'écoute attentive de toute sa parole.